c'était l'enjeu pour nous, c'était de casser cette idée reçue hein, d'une jeunesse hyper radicalisée, black bloc, hyper déterminée et violente. En fait, lorsqu'on lit ces entretiens, on voit bien que ces jeunes, bah, c'est des jeunes comme on peut les côtoyer dans nos salles de cours, dans nos villages, etc. C'est des gens bah, voilà, qui ont une sensibilité politique, écologique certaine, mais qui ne sont pas nécessairement des ultra-violents, en tout cas, loin de là.
Pour compléter aussi un peu ce que tu dis, Benoît, l'idée quand même d'accorder de la place au parcours, aux trajectoires, aux propriétés sociales des gens, c'est aussi aller à rebours complètement du récit médiatique qui a horreur d'historiciser les choses, qui décontextualise et qui désociologise ou désocialise énormément les choses. Donc on aime bien les portraits dans les médias où on ne sait rien de l'histoire, on a l'impression que ça surgit. C'est totalement cohérent avec l'idéologie néolibérale qui déteste la sociologie d'abord et qui déteste l'idée qu'il y a des classes sociales, qu'il y a des positions et des conditions de vie qui déterminent et qui façonnent nos aspirations, nos dispositions. Donc reconstruire un peu le parcours des gens, voir effectivement qu'avant Sainte-Soline, on a été au Gilet jaune, nuit debout ou rien du tout. C'est autre chose, que c'est la première grande manifestation, qu'on est plutôt de milieu paysan, ouvrier ou bourgeois de droite, comme c'est le cas aussi pour certains des portraits, et voir effectivement tout ce qui se construit relationnellement dans la vie. Relationnellement, ça c'est important, parce que ça aussi c'est quelque chose dont on a horreur dans les médias, c'est de restituer des interdépendances. On n'arrive pas à Sainte-Soline seul, on arrive à travers différentes expériences, enfin, à l'issue de différentes expériences socialisatrices, différentes expériences dans des collectifs de travail, militants, associatifs et autres. Et c'est tout cet enchaînement, toute cette conjugaison d'expériences qui nous a intéressé de contribuer un peu à rappeler, pour sortir de cette vision un peu sensationnaliste de la personne qui a fait le choix radical ou utopique de venir à Sainte-Soline. Et puis, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Donc, c'est un peu le contre-pied qu'on a voulu prendre.
Ouais, et d'ailleurs, concrètement, du coup, est-ce que vous pouvez un peu nous dresser le portrait à grands traits de ces divers profils? Bon, c'est un peu compliqué de résumer là le travail extrêmement précis, justement, que vous avez essayé de faire pour ne pas, en essayant de ne pas trop généraliser, mais quand même, qu'est-ce qui ressort de ces entretiens?
Alors, quelques mots, et puis les autres compléteront aussi, qui connaissent l'ouvrage et qui ont contribué. Donc, cette hétérogénéité, donc, elle se saisit déjà à travers des... Alors, donc, on s'est centré sur les 18-30, à peu près, enfin, sur la jeunesse. On a assumé ce parti pris.
Pourquoi, d'ailleurs, peut-être qu'on peut en dire.
Pourquoi, oui, en un mot, pourquoi? Parce qu'on s'est, avec l'éditeur aussi et le collectif du Laurier, on s'est dit que c'était un âge qui était parlé, plus qu'il ne parlait. C'était quand même, voilà, il y a quand même une disqualification assez répandue de la parole de la jeunesse. Il y a aussi quelque chose d'extrêmement politique, c'est-à-dire que la jeunesse est quand même malmenée depuis des décennies, hein, par les politiques publiques. On pense au logement, on pense à Parcoursup, on pense à la formation, on pense à ce qui se passe à l'école, on pense à ce qui se passe évidemment sur le front de l'insertion professionnelle. Donc on avait, et puis politiquement aussi, le dénigrement, les stéréotypes concernant le désengagement, l'exit, l'apathie des jeunes, ou au contraire, caricature aussi, l'excitation, la radicalité. Donc nous, c'est vrai que ces portraits-là, et ça va me permettre de rentrer dans les portraits, ce qui donne à voir ces différents portraits, c'est déjà des tiraillements et des ambivalences internes. Voilà, c'est plus compliqué à écrire que de dire il est comme ceci, il est comme cela, mais c'est pourtant comme ça qu'on s'approche un peu de la vérité. On revient à l'idée de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fonction des trajectoires, en fonction des appartenances familiales, professionnelles, du type de formation, les jeunes qu'on a interrogés, les portraits le révèlent bien, sont souvent tiraillés, en fait, justement, ce qui nous fait sortir de la caricature du violent ou pas violent, engagé, désengagé, etc. Globalement, tous les jeunes qu'on va pouvoir lire dans ce bouquin révèlent des tiraillements, des ambivalences entre voilà, la culture familiale, par exemple. On a dans le Anaël, dans le livre, dont les frères sont des agriculteurs plutôt conventionnels. Voilà, donc on va à Sainte-Soline avec aussi cet héritage familial, et puis on se bat contre ce modèle-là. Donc on imagine les tiraillements internes que ça peut... que ça peut susciter. On a un fils de gendarme qui va se retrouver au front et avec une famille où il y a plusieurs représentants de la police ou de la gendarmerie. Donc on imagine aussi dans les récits familiaux, dans les interactions précédentes ou qui vont suivre Sainte-Soline, tout ce que ça peut générer, ce type de situation, ce type d'origine. Morgane, qui est plutôt issue d'un milieu de droite, une petite bourgeoisie proche de Paris, avec une famille où finalement le gros de la fratrie, dans les professions, si on veut situer un peu socialement, on est plutôt dans les cadres financiers ou la grande distribution, je ne sais plus, mais en tout cas on est très très loin de Sainte-Soline. Et voilà, donc c'est ça aussi que révèlent les portraits, c'est très très loin des caricatures médiatiques, des participantes et des participants à Sainte-Soline qui ont des dispositions et des aspirations et des héritages qui sont très contrastés. Voilà, bon, je passe le...
Oui, on a aussi, alors si on fait la liste un petit peu des jeunes interviewés, il y a un lycéen. Il y a 17 ans, c'est pas sa première manif, hein. C'est quelqu'un dont les parents sont des militants acharnés à Poitiers, donc il a une socialisation politique qui est déjà... Mais c'est sa première grosse manif, et Sainte-Soline, personne n'avait fait de manif comme ça pratiquement avant, donc il a un discours assez très sensible de ce qui se passe, il est très lucide hein, pour 17 ans, on est un peu estomaqué quand on lit ce qu'il dit. Je recherche mes notes. On a une ancienne maraîchère, un artiste plasticien, une soudeuse intérimaire, une ancienne infirmière, une orthophoniste, une professeure du secondaire, un assistant d'éducation. Bref, on a des gens qui ont des profils sociaux assez différents. Alors peut-être s'arrêter sur deux, hein, c'est un binôme. Yaël et Louise, parce que l'organisation de BNM, des soulèvements de la terre, c'était de faire en sorte que ces jeunes et ces militants, militantes, n'y aillent pas tout seuls, mais en binôme, pour permettre aussi de se seconder en cas de difficulté, si on se perdait, etc. Aussi, on pourra revenir sur cette organisation qui a permis peut-être aussi d'éviter quelques dommages supplémentaires. Toujours est-il, Yaël et Louise, ils sont intéressants aussi à resituer, parce qu'en fait, Louise, milieu plutôt prolo, mère assistante sociale, divorcée, beau-père gendarme, qui se retrouve à avoir une scolarité plutôt bonne parce qu'elle s'accroche à l'école, elle sort de son milieu social, familial, dans lequel elle ne s'épanouit pas du tout, elle s'accroche, elle est bonne élève, elle devient professeure du secondaire, prof d'espagnol. Et sa socialisation politique, elle se fait au lycée, hein, où elle découvre avec ses camarades du lycée, lycéenne, les journaux, l'intérêt de faire des revues de presse, de parler politique tous les jours avec ses copains, copines, où elle est très impressionnée aussi par ces jeunes qui sont plutôt de la petite bourgeoisie de Poitiers, qui ont des dispositions à penser déjà à la chose politique parce que les parents le font. Et son copain binôme, c'est Yaël. Lui, pour le coup, c'est un héritier. Grand-père prof d'université, mère médecin, père professeur de mathématiques. Et lui, il a une socialisation politique qui se fait avec très jeune, hein, ils sont plutôt PS. Et MeToo va vraiment le transformer. Il va complètement, il le dit, hein, sa révolution politique, elle se fait avec MeToo. Avant, il était plutôt Colibri, Pierre Rabhit, etc. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au moment de Sainte-Soline, ils y vont toutes les deux, et lui et elle se retrouvent dans une situation où finalement, même si lui, il est homosexuel, il est très sensible à la cause du genre et du care, il se retrouve à avoir ces velléités un peu masculinistes qui remontent, où il a envie d'aller au charbon, il a envie d'aller à la confrontation, et avec sa binôme, ils sont vraiment pas à raccord. Elle a peur, elle veut prendre soin de lui, elle veut prendre soin des autres qui sont en difficulté. Et là, on revoit les dispositions sociales qui agissent, hein, avec les tensions, les tiraillements, comme tu disais. C'est-à-dire qu'elle se retrouve à devoir faire binôme avec une autre nana. Lui, il va aller un peu plus face au conflit avec un autre gars. Et finalement, ce qui ressort de cette histoire, c'est aussi le discours qu'a Louise au retour de Sainte-Soline. Elle est proche de la CNT, des militants très, très, très organisés de Poitiers. Et plusieurs camarades masculins vont lui dire « T'étais où, toi, Sainte-Soline ? Est-ce que t'étais à l'arrière ou est-ce que tu t'es Et lorsqu'elle a dit qu'elle s'était mise en retrait, elle a senti une disqualification, une non-légitimité de la lutte. Et c'est que, bon, voilà. Nous, notre enjeu, c'est pas d'enjoliver complètement cette lutte. On trouve que ce qui s'est passé, c'est très fort et c'est très important. Mais voilà, il y a des contradictions internes, y compris dans ce mouvement qui se revendique aussi du CAIR, une émancipation sociale et politique très forte. Il y a aussi dans ses membres, évidemment, des tensions et des contradictions qui ressortent dans ce livre grâce à ces portraits et grâce à cette lecture qu'on fait, d'écoute qu'on fait avec ces jeunes. Voilà, on peut faire ressortir quelques éléments comme ça, un peu sociologiques, qui nous tiennent à cœur.
Donc tous ces parcours, des ruptures avec la famille, ou bien plutôt une espèce de continuité dans la socialisation politique jusqu'à Sainte-Soline, tout ça, tous ces parcours de jeunes prennent place dans un contexte très particulier, du point de vue de la répression. Et donc je vais me tourner vers toi, Capucine. Il y a depuis, je ne sais pas, historiquement, est-ce qu'on peut dater des Gilets jaunes ou d'avant, ou en tout cas un espèce de moment de la répression étatique assez particulier. On parlait de Total tout à l'heure, en ce moment il y a les expulsions d'étudiants pro-palestiniens dans toutes les universités. Donc, du point de vue de la possibilité de militer, ça veut dire quoi avoir 20 ans à Sainte-Soline, enfin avoir 20 ans au temps de Sainte-Soline, peut-être de manière générale, mais on peut peut-être revenir d'abord sur Sainte-Soline et puis après de manière générale, ce que ça illustre peut-être.
Ouais, c'est assez vaste. Je ne sais pas si je vais pouvoir vraiment répondre parce que je crois que j'ai pas forcément la position qui me permet d'avoir vraiment la réponse pertinente à cette question. Par contre, moi, ce que je connais, c'est plutôt la répression en tant que telle. Enfin, et en tout cas. Surtout en contexte parisien finalement, mais du coup maintenant un petit peu à Sainte-Soline aussi. Et effectivement, moi, on l'a vu, c'est militer, ça veut dire se mettre en danger aussi. Enfin, pas que, mais en tout cas, militer à Sainte-Soline, être présent à Sainte-Soline, y compris quand on n'a pas spécialement décidé d'aller très près des forces de l'ordre, ça veut quand même dire se mettre en danger, mettre son corps en danger. Mettre son psychisme aussi en danger, parce que il y a eu cette comptabilisation des blessés qui était entre, alors je l'ai vu, le dernier chiffre était 240. Après, on a évidemment pas compté toutes les personnes qui ont vécu un traumatisme, ou en tout cas qui ont eu des répercussions psychiques en termes d'anxiété, de peur, de déprime ou de dépression. Et ça, je pense qu'il y en a eu énormément. Et donc, du coup, pour moi, militer, ça veut dire se mettre en danger. Et après, moi, ce qui est un peu particulier sur le plan personnel, c'est que moi, quand j'y suis, je suis toujours un petit peu à côté quand je viens en observatrice, parce que même si, évidemment, on a tous nos convictions personnelles, on vient pas là pour ça. Même si je vais pas trop en parler, mais bon, ça, évidemment, c'est pas si simple. Mais donc finalement, c'est le fait d'observer et de voir ces personnes-là qui sont là, qui restent, qui s'en vont pas, et malgré toute la dangerosité des armes, qui continuent d'avancer, qui voient leurs camarades blessés. Je pense que ça veut dire aussi qu'on a le sentiment qu'on n'a peut-être pas trop le choix. Enfin, ou en tout cas que là, le coût de ne pas le faire est trop élevé. Je pense qu'il y a un peu un truc comme ça.
Tu peux décrire concrètement comment travaille à la LDH pour faire ce type d'observation?
On a tous un peu des techniques. Là, on était plusieurs observatoires différents. On avait 5 équipes présentes. On venait un peu de partout en France, et donc du coup c'était une observation inter-observatoire, donc ça a demandé un peu de coordination de ce point de vue là aussi, mais en gros schématiquement on est par équipe de 3. Il y a une personne qui assure la sécurité de l'équipe, une personne qui va prendre des notes vocales, et une troisième personne qui va filmer, prendre des photos, etc. Et finalement, en fait, celle qui assure la sécurité, elle permet aux deux autres de remplir leurs tâches sans avoir à constamment se préoccuper de leur environnement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est... ça sort presque sur le moment de ce qui se passe vraiment, parce qu'on est tellement en train de réaliser... On a une méthodologie très rigoureuse, pas pour des nécessités de preuves derrière. Et c'est vraiment... il se passe tel truc-là, l'ambiance, elle est calme. OK, il est... 12h36, on est à tel endroit, on voit qu'il y a tel type de force de l'ordre qui arrive.
Ad As-tu vu ce cortège? Bon de là, quelle belle noce! De la terre et de l'eau, la chaline et du vent. De femmes jeunes ou vieilles, de voisins et leurs gosses, de chevreuils ébahis et des oiseaux chantants. Nous sommes venus nombreux du fond de nos villages, des villages que nos vieux ne reconnaissent plus. Ils ont été vidés et vendus nos campagnes à la spéculation qu'on ne rassasie plus. Nous étions cent, nous étions mille, nous étions mille et cent. Nous étions cent, nous étions mille, nous étions mille et cent. Avancer au plus près de l'autel, une grande bassine pour emprisonner l'eau, un gros cratère vide gardé par des robots. Puis ce fut le fracas, puis ce fut le chaos. S'abattait sur les gens. Au loin, soudain, j'ai vu un vol de perdreaux. Affolé, apeuré par l'odeur du sang. Nous étions cent, nous étions mille.
Partager. Il faut ensemble, il On profite de cette émission pour vous faire part de l'appel lancé par les éditions La Dispute, qui publie Avoir 20 ans à Sainte-Soline, et des éditions Sociales, qui lancent un appel à dons sur leur site. On vous encourage vivement à aller jeter un coup d'œil. En France, l'édition vit écrasée par une poignée de grands groupes capitalistes. Ces groupes, aux chiffres d'affaires vertigineux, possèdent des centaines d'éditeurs, des groupes de diffusion et de distribution, des réseaux de vente, mais aussi une quantité de médias à leur service. Récemment, beaucoup de monde s'est ému du rachat d'Hachette par Bolloré. Mais le monde du livre n'a malheureusement pas attendu le patron de CNews pour servir des logiques de prédation capitaliste et de guerre idéologique. Les éditions Sociales et La Dispute font partie des éditeurs qui s'opposent à ces empires. Deux maisons, deux catalogues, mais une seule équipe d'éditrices au service d'une même ambition éditoriale. Nous publions des livres exigeants pour transmettre des savoirs populaires, reconstruire un espace de débat marxiste, renforcer la puissance de penser et d'agir de celles et ceux qui veulent transformer le monde et changer la vie. Tout ça, nous le faisons à notre échelle, celle de petits éditeurs indépendants et autonomes, dont les moyens sont sans commune mesure avec ceux des grands groupes de l'édition. Si nous menons ce combat en mettant notre cœur à l'ouvrage, c'est parce que nous sommes convaincus que, même si l'édition critique que nous défendons ne suffira pas à abolir l'état actuel des choses, elle peut beaucoup y contribuer. Aujourd'hui, c'est nous qui avons besoin de vous. Ces dernières années ont été bien remplies, nous avons rajeuni nos équipes, déployé nos catalogues, publié des dizaines d'autrices et d'auteurs, changé nos maquettes, lancé de nouvelles collections, repensé notre présence sur les réseaux sociaux, changé de diffuseur, stoppé notre travail avec Amazon, multiplié nos initiatives en librairie et auprès des mondes militants. Ces choix sont payants, mais notre équilibre économique n'est pas encore établi. Créées sans fonds propres il y a près de 30 ans, les deux maisons rencontrent aujourd'hui des besoins de trésorerie dus à des mois de vente difficiles et à une forte inflation du prix du papier. Pour vivre, une entreprise comme la nôtre ne peut compter sur aucun mécène, simplement sur la vente de ses livres, qui sont des livres dont la rentabilité ne s'établit que sur le long terme. En plus de 25 ans d'existence, c'est la première fois qu'on en appelle à votre solidarité. En participant à notre campagne, vous nous aidez à poursuivre notre engagement et notre développement éditorial. D'autant que des projets, on en a plein et on ne demande qu'à pouvoir les mener à bien. À La Dispute, s'acharner à publier des livres exigeants parce que c'est ce qu'on sait faire le mieux et que si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. On travaille en particulier dans trois directions, orientées par trois collections de référence, sur le travail et les formes d'exploitation, collection travail et salariat, le genre et les féminismes matérialistes, collection le genre du monde, l'éducation et les enjeux d'une pédagogie démocratique et égalitaire, collection l'enjeu scolaire. Intervenir plus directement dans les débats théoriques et politiques contemporains. C'est ce qu'on a commencé à faire ces dernières années et qu'on voudrait renforcer à travers la toute nouvelle collection de petits livres d'intervention lancée par Bernard Friot et notre collection Entretien. Inventer de nouvelles formes éditoriales, comme on l'a fait avec Avoir 20 ans à Sainte-Soline, en faisant dialoguer savoir académique, issu de la pratique, et militant dans l'analyse des luttes sociales et politiques contemporaines. Aux éditions Sociales, poursuivre la GEM, la grande édition Marc Engels, ce projet formidable et un peu fou pour rendre accessible l'ensemble des textes de Marx et d'Engels dans une édition de référence et des traductions nouvelles et rigoureuses. Constituer le plus grand fonds de livres marxistes en France, en accueillant tous les courants du marxisme et les traditions du mouvement ouvrier et révolutionnaire, tels qu'ils se sont développés en France et à l'étranger, parce que c'est essentiel de transmettre ces textes et ces débats pour avancer aujourd'hui. Vous faire découvrir une nouvelle génération d'autoristes marxistes à travers notre collection Les Éclairés et accompagner ces autoristes vers un public qu'on espère le plus large possible. Agrandir et installer notre collection de pédagogie Découvrir, en faire une référence pour les nouvelles générations de lycéens et lycéennes, étudiants, étudiantes, profs, militants, militantes. Mais aussi, ensemble, construire avec nos camarades, éditeurs, libraires, médias, indépendants, monde militant, associatif et syndicaux, et toutes celles et ceux qui se battent comme nous, un monde du livre opposé à celui de Bolloré et compagnie.
Du temps où je n'étais qu'un gosse, mon grand-père me disait souvent, assis à l'ombre de son porche, en regardant passer le vent. Petit, vois-tu ce pieu de bois auquel nous sommes tous enchaînés?
tant qu'il sera planté comme ça, nous n'aurons pas la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Petit, ça fait déjà longtemps que je m'y écorche les mains. Et je me dis de temps en temps que je me suis battu pour rien. Il est toujours si grand, si lourd, la force vient à me manquer. Je me demande si un jour nous aurons bien la liberté. Mais si il tombera, ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Puis mon grand-père s'en est allé, un vent mauvais l'a emporté. Et je reste seul sous le porche à regarder jouer d'autres gosses, dansant autour du vieux pieu noir où tant de mains se sont usées. Ils chantent des chansons d'espoir qui parlent de la liberté. Oh, si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. La, 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 la. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe. Tombe, tombe, et nous aurons la liberté.
Les chansons aujourd'hui, c'était « Les voleurs d'eau » d'Henri Salvador, « Nous étions mille et cent » de Christian Paché et Siak Boum, et enfin « Le pieu » de Marc Robin. Le Zoom Écologie, c'est fini pour aujourd'hui. C'était l'équipe Arpentaire. On se retrouve très vite sur Radio Fréquence Paris Pluriel. Thank you.
la méga radio, c'est le jingle de la méga radio.
Quand on réfléchit à l'écologie, il y a souvent deux rapports possibles à la technologie. Soit on pense que la technologie va nous sauver. C'est vrai, on n'a pas encore la solution, mais ayons confiance, dans 10 ans, dans 20 ans, l'innovation technologique nous permettra de sortir de la crise écologique. Soit on pense que c'est précisément cette course à l'innovation qui est responsable de la catastrophe et qu'il faut tout arrêter. Qu'il y a tout un tas d'activités inutiles, polluantes, néfastes, qu'on doit stopper. Bon, moi, je fais plutôt partie de la deuxième team. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Comment on fait concrètement pour démanteler ce monde ? Comment on arrête des infrastructures dont on dépend très fortement ? Parler, je reçois Alexandre Monin, tu es enseignant-chercheur et auteur de Politiser le renoncement. Alors justement, ces deux modèles dont j'ai parlé là dans l'introduction, l'idée que l'innovation va tout résoudre ou l'idée qu'il faut en finir avec les technologies, ces deux approches que tu critiques.
Alors bonjour tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Oui, ce sont alors deux approches que je critique. En même temps, je critique immédiatement la première, et notamment avec mes collègues Emmanuel Bonnet, Diego Landiva, on avait écrit un livre en 2021, Héritage et fermeture, où on critiquait le tout innovation, le technosolutionnisme, et on essayait de mettre en avant l'idée d'une écologie du démantèlement. Donc de prendre au sérieux cette question du démantèlement et d'une certaine manière, donc j'ai prolongé mes réflexions dans le cadre de ce nouveau livre « Politiser le renoncement ». En fait, si on prend au sérieux cette question du démantèlement, effectivement, on se rend compte qu'au-delà du slogan consistant à tout arrêter, c'est plus compliqué que ça et qu'il y a des attachements, des liens qui sont parfois plus ou moins légitimes et donc certains le sont légitimes aux technologies et qu'en fait, il faut regarder vraiment dans le détail ces questions. Non pas pour simplement mettre de l'eau dans son vin et puis ne pas prendre au sérieux la question du démantèlement. Au contraire, la prendre au sérieux, c'est aller sur le terrain et c'est aussi prendre au sérieux toutes les difficultés qu'il y a à porter une telle idée. Mais en même temps, le fait qu'on est obligé d'en passer par là, qu'on est obligé d'aller regarder des situations très concrètes, très variées aussi, parce qu'on est attaché de manière finalement assez diverse, selon les personnes concernées, selon les corps aussi qui sont concernés, aussi des corps qui ne sont pas forcément en bonne santé, qui ne sont pas forcément capables de faire ce que font d'autres corps sains, et qu'on ne peut pas prendre ces corps-là pour modèle quand on envisage ces questions de démantèlement. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai essayé de porter dans ce travail, qui met à distance à la fois le technosolutionnisme et moins la critique des technologies, parce que moi je l'endosse sans aucun souci, que plutôt des pensées, on va dire, assez univoque, anti-industriel, anti-civilisation, anti-tech en général, parce qu'en fait, c'est plus compliqué que ça.
Et tu parles beaucoup de la notion de commun négatif. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ?
Bien sûr, une notion que j'ai développée depuis quelques années maintenant, c'est effectivement cette idée de commun négatif. Moi, je suis contributeur, ou j'étais contributeur à l'époque, à des lieux où on fabriquait des communs. Je pense notamment à la mine MYNE à Villeurbanne, qui est un lieu très intéressant de ce point de vue-là. Et donc, j'ai été amené à l'invitation de Sylvia Fredriksson en 2017 à réfléchir à cette question des communs. Et à ce moment-là, en fait, je voyais beaucoup de gens, alors c'est moins le cas aujourd'hui, mais beaucoup de gens se politisaient autour de la notion de commun, notamment remise en avant par Elinor Ostrom, donc première femme à recevoir l'équivalent du prix Nobel d'économie. Et donc il y avait presque un côté un peu solutionniste qui commençait à émerger autour des communs, c'est-à-dire que les communs allaient devenir la solution à tous nos problèmes. C'était vraiment l'option dont il fallait se saisir pour repenser nos modèles existants. Et un petit peu un symptôme de ça à l'époque, c'était le livre de Michel Bowens, préfacé par Bernard Stiegler. Je dis ça parce que j'ai travaillé pour Bernard Stiegler pendant 3 ans, qui s'intitulait modestement Sauver le monde et qui parlait des communs. Je disais, bon, c'est un petit peu exagéré d'intituler un livre Sauver le monde pour parler des communs. Et puis c'est mettre aussi un poids très grand sur les épaules des personnes qui, au jour le jour, dans des contextes très concrets, fabriquent des communs. Et moi, j'ai essayé de prendre ça, c'est un petit peu ces options à rebours. Non pas en me demandant de quelle manière le commun constituait une solution, d'une certaine façon, à l'anthropocène. Si on entre dans une nouvelle époque géologique, je ne pense pas qu'il y ait de solution à ça. Mais par contre, comment on pouvait repenser les communs à l'heure de l'anthropocène. Anthropocène, capitalocène, mais j'inclus dans anthropocène toutes ces alternatives. Donc c'est une conception enrichie du mot anthropocène. Et il m'est apparu effectivement que nous allions non pas simplement hériter de ressources, pour parler comme Ostrom, qu'il fallait préserver, pérenniser, protéger, grâce notamment aux communs, mais aussi d'éléments problématiques, des rivières asséchées, des sols pollués, des infrastructures en déshérence et bien d'autres réalités encore, et qui forcément vont se multiplier et vont se multiplier. Et la question qui allait se poser, c'est qu'est-ce qu'on va en faire ? Parce que ce ne sera pas possible de leur échapper. Alors, il y avait cette idée un peu que la fuite était quand même impossible, ou réservée finalement à une petite minorité, mais qu'il fallait quand même se poser la question collectivement de qu'est-ce qu'on fait de ces réalités-là. Et puis, en fait, en tirant ce fil, il m'est apparu aussi qu'il y avait une autre catégorie de communs négatifs, qui étaient des communs non pas, ce que j'appelle moi, des ruines ruinées, mais des ruines plutôt ruineuses. Il n'y a pas forcément d'ailleurs de solution de continuité entre les deux. On peut être ruiné et ruineux. Un puits de pétrole désaffecté dans lequel il reste du pétrole, ben, c'est à la fois ruiné et ruineux, d'une certaine manière. Mais il y a des éléments qui, de par leur mode de fonctionnement, sont ruineux, donc dégradent les conditions d'habitabilité sur Terre, et puis la situation des travailleurs et des travailleuses, de certaines personnes, plus largement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ces réalités-là ? Comment est-ce qu'on arrive à les repolitiser pour se dire que ce ne sont pas des solutions d'avenir, que ce ne sont même pas des options d'avenir, mais qu'il faut aussi, dans un certain nombre de cas, soit y mettre fin, les interrompre. Ça peut être des projets sur lesquels on travaille, on sait que ce n'est pas une bonne idée. Moi, j'ai travaillé une quinzaine d'années dans le numérique, donc par exemple, je disais, mais est-ce que faire émerger comme ça des centaines de milliards d'objets connectés à l'avenir, je ne dis pas tout objet connecté, hein, parce qu'il faut rentrer dans le détail, mais des centaines de milliards, est-ce que c'est une bonne idée pour demain ? Je ne suis pas forcément persuadé. Est-ce que les méga-bassines, c'est un exemple d'adaptation ou de maladaptation ? On voit bien qu'il y a un débat, comme il y a eu un débat sur la 5G, est-ce que c'est une bonne idée de faire la 5G parce que demain il y aura la 6G, etc. etc. Il y avait des collectifs d'ailleurs de travailleurs et de travailleuses au sein d'Orange qui avaient écrit des rapports pour dire que ce n'était pas une bonne idée d'aller sur la 5G. Et donc voilà, comment est-ce qu'on arrive à établir que ces éléments-là sont plutôt des communs négatifs, c'est-à-dire des réalités problématiques qui vont dégrader des habitats, des milieux immédiatement, mais plus largement des conditions d'habitabilité de façon générale, et comment collectivement on peut leur donner une autre trajectoire qui peut aller jusqu'au démantèlement. Parfois le démantèlement n'est pas possible, et d'ailleurs dans ce cas-là c'est compliqué, sur les déchets nucléaires, qu'on soit pro, qu'on soit anti-nucléaire, on a un problème, on ne veut pas le résoudre de la même façon, mais on a un problème dans tous les cas. Donc il y a des réalités aussi qu'on ne peut pas faire disparaître. Et donc voilà, comment on en hérite, quelle trajectoire on leur donne et comment on refait de la politique autour de ces questions-là. Effectivement, ce sont les questions qui sont au cœur de la réflexion autour des communs négatifs.
Et les communs négatifs, tu as cité quelques exemples, puits de pétrole, déchets nucléaires, mais ce n'est pas seulement matériel.
Non, tout à fait, absolument. C'est pour ça que je ne parle pas de ressources. C'est vrai que dans l'idée des communs, souvent, ça va être des ressources et des ressources naturelles, d'où le fait que j'ai un peu critiqué le côté bucolique des communs. Souvent, ça va être les champs, parce que les communs, ça remonte au Moyen-Âge. Donc voilà, les paysans faisaient paître leurs animaux, ils arrivaient à s'entendre et pas à détruire la ressource, contrairement à la tragédie des communs de Garrett Hardin, hein, qui disait que l'intérêt bien compris, c'était d'exploiter au maximum la ressource le plus vite possible. En fait, ça ne se passe pas comme ça. Pour autant, on reste dans cet imaginaire qui a, il faut le dire aussi, été renouvelé quand même par le logiciel libre, puisque le logiciel libre ou des communs numériques comme Wikipédia sont aussi des communs, c'est-à-dire des ressources qui sont gérées, si l'on veut, collectivement par des collectifs qui se donnent des règles de gouvernance pour ça. Mais effectivement, il n'y a pas que des ressources concrètes, tangibles. Alors, le logiciel, c'est déjà un petit peu entre les deux. On est déjà du côté de la propriété intellectuelle. Mais il y a aussi des réalités. Ça peut être des règles de droit, des modèles économiques, des manières de fonctionner, des héritages aussi liés à la colonisation, à d'autres choses, dont on hérite. Et la question, effectivement, c'est de savoir est-ce qu'on les maintient, on ne les maintient pas, à quel point on peut aussi les démanteler. Ce qui est certain, c'est qu'en fait, il n'y a pas de définition, de mon point de vue, ontologique des communs négatifs. Ça, c'est un point important à dire. C'est-à-dire que ce n'est pas moi, Alexandre Monin, du haut de ma chair, qui suis vaguement philosophe, qui explique aux gens ce qui est un commun négatif ou non. D'ailleurs, on voit même, alors je peux avoir une opinion hein, sur les méga-bassines ou autre, bah, en fait, il y a de la production d'expertise. Donc, y a aussi, c'est aussi une arène sur laquelle il faut aller. Donc, la question, elle est liée aussi à des enquêtes qui se font. C'est pas l'encyclopédie des nuisances. Certaines auront la référence. Donc, c'est pas moi qui partage mes goûts et mes dégoûts en la matière. Par contre, c'est de dire qu'est-ce qu'on choisit de cibler. Et on peut pas tout cibler de toute manière. On a une énergie qui est limitée. Mais qu'est-ce qu'on choisit de cibler pour apporter un traitement politique qui peut passer par l'interruption de la trajectoire? Eh bien, ça peut être, par exemple, si c'est le smartphone, c'est pas l'objet smartphone, mais peut-être la lignée technique du smartphone, parce que produire des objets comme ça qui durent 2 ans, c'est pas viable. Ça peut être le SUV qui ne devrait pas exister, qu'une monstruosité. Ça peut être en fait plein de choses, mais aussi des héritages plus abstraits, plus liés à de la réglementation, des éléments culturels. Voilà, donc c'est se poser la question en fait du devenir de ces éléments-là et peut-être de leur non-maintien.
Et alors comment, si on choisit de les démanteler, comment on fait ?
Alors c'est une bonne question, notamment parce qu'on manque beaucoup de savoir en la matière en fait. Il y a l'enjeu politique dans l'absolu de les démanteler, mais après il y a le fait de passer à l'action. De se dire, déterminer qu'il faut démanteler quelque chose, c'est bien. Mais après, de savoir comment faire concrètement, ça c'est tout à fait autre chose. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de savoir aujourd'hui en matière évidemment d'innovation. Tu l'as rappelé au début, hein, l'innovation étant vue comme la solution à beaucoup de choses. Et aujourd'hui, la recherche d'ailleurs est drivée, pardon pour l'anglicisme, par l'innovation. D'ailleurs, le ministère aujourd'hui, c'est l'ESRI, hein, c'est Enseignement supérieur, Recherche et Innovation, qui est un peu la finalité finalement de tout ça. Et donc, on sait innover, en tout cas, on développe des savoirs autour de ça, un peu la destruction créatrice. De plus en plus, des chercheurs, des chercheuses mettent l'accent sur les enjeux de réparation. Et puis dans la loi, il y a les questions de réparabilité. De plus en plus, des chercheurs, des chercheuses mettent l'accent sur des enjeux de maintenance. Pour dire que, voilà. Et puis les professions qui sont liées à la maintenance sont beaucoup moins reconnues que les professions liées à l'innovation. Donc là aussi, il y a des inégalités très fortes qu'il faut essayer d'adresser. Autre anglicisme. Et par contre, il y a un corpus qui fait défaut en matière effectivement de fermeture, de démantèlement. On ne développe pas véritablement des savoirs en la matière, ou alors des savoirs extrêmement techniques sur des points très très précis, mais qui ne visent pas finalement à interrompre des activités, mais plutôt finalement à gérer leurs héritages avant d'en relancer d'autres. Démanteler des usines parce qu'il y a eu des pollutions, mais c'est pas dans l'optique qu'il n'y ait plus de pollution à l'avenir. C'est dans l'optique finalement de déplacer l'activité d'un territoire à l'autre et pas finalement d'interroger ses finalités. Donc il y a un enjeu effectivement à arriver à mobiliser sur ces questions, à légitimer donc la question aussi dans l'espace public du démantèlement, légitimer que renoncer, démanteler, arrêter, de toute manière c'est une option qui est posée aujourd'hui sur la table. Donc de ne pas en faire qu'un geste de militant, même si les militants sont évidemment très importants parce qu'ils s'emparent de ces questions. Mais il faut aussi que dans la culture, j'allais dire, plus partagée, plus mainstream d'une certaine manière, en fait, ces questions soient à l'agenda, ce qui aidera aussi en retour les militants à légitimer dans nombre de cas leur action. Donc développer ce que moi j'appelle des arts de la fermeture, une culture, une politique aussi, on pourrait dire, de la fermeture. Alors, aujourd'hui, on est au ministère et je sors d'une matinée consacrée au renoncement, parce qu'il y a aussi des agents en fait qui comprennent dans ces établissements publics. En fait, ces questions sont des questions aujourd'hui fondamentales. Et en fait, il y a des forces à l'extérieur des institutions, mais aussi dans les institutions. Il faut arriver à travailler avec tout ce monde-là, encore une fois, pour légitimer ces approches et très, très rapidement élaborer à la fois un corpus et puis des méthodologies, des pratiques, des savoirs, des savoir-faire en matière de démantèlement dans des secteurs extraordinairement différents les uns des autres, parce qu'en fait, ça concerne tous les secteurs. Parce que la redirection écologique et le programme que je porte avec mes collègues Emmanuel Bonnet et Diego Landivar part du principe, contrairement à d'autres approches antérieures, et c'est pas pour cracher sur elle, hein, c'est pas du tout l'enjeu, mais un élément différenciant qui est qu'elle considère que demain, on ne pourra pas et on ne devra pas tout maintenir. Et la nuance est importante, on ne pourra pas tout maintenir. Ça peut faire penser à des enjeux d'adaptation parce que de facto, il y a des activités, des infrastructures qui sont amenées à disparaître. Là, ce matin, il y avait quelqu'un qui fait sortir son territoire de la dépendance à la neige, c'est Métabier en l'occurrence, et de l'activité ski. Et on sait que bon nombre de territoires de montagne vont être concernés par ces perspectives, même s'il y a encore des canons à neige et des plans à 100 milliards d'euros en région Aura, mais voilà, ce sont des monstruosités de ce point de vue-là. Et puis des éléments qu'il ne faut pas maintenir, mais qu'on pourrait maintenir longtemps si on allait dans la mauvaise direction. Un exemple, là encore, pour prendre des exemples de politique publique, c'est l'exemple du zéro artificialisation net. Alors, on en pense ce qu'on veut, mais qui a quand même été, pour beaucoup de collectivités, une espèce d'Himalaya qu'il fallait franchir, qui s'est mis vraiment en difficulté. Mais c'est de dire que c'était quand même ambitieux, mais ça ne va jamais assez loin. Mais c'est quand même un premier pas intéressant, qui a d'ailleurs été retoqué aussi par l'auteur du plan à 100 millions d'euros sur les canons à neige. Faussement, où là on se dit qu'il ne faut pas attendre d'avoir tout artificialisé pour renoncer justement au tout artificialisation, parce que si on artificialise tout, on est mort, grosso modo, donc on ne peut pas se permettre d'aller aussi loin. Donc il faut de toute manière anticiper un renoncement. Donc, la redirection écologique, elle considère que ces renoncements vont devoir de toute façon intervenir et que tout l'enjeu, c'est de savoir à quelles conditions on arrive concrètement à les porter.
Alors, tu as dit, hein, on est au ministère de la Transition écologique aujourd'hui. On parlera des acteurs un peu plus tard. Mais il y a aussi une question d'échelle, parce que qui ça concerne finalement? Alors, même ne serait-ce que la fermeture éventuelle des méga-bassines, est-ce que ça concerne tout le bassin versant? Est-ce que ça concerne... Enfin, voilà, ça pose une question fondamentale.
Oui, tout à fait. C'est aussi la question des communs négatifs, en fait. Hein. C'est de qui ce commun négatif est le commun? Parce que dans les communs, il y a un petit peu cette illusion... qu'il y a une sorte de relation directe entre la communauté ou le collectif qui s'occupe du commun, dont c'est la ressource, et qui va la pérenniser. Sauf qu'en réalité, il peut tout à fait y avoir des conflits d'usage avec d'autres collectifs, des conflits d'échelle, etc., etc. Donc en fait, la relation, elle n'est pas du tout naturelle. On le voit assez facilement quand on parle de commun pour... désigner par exemple la forêt amazonienne, on dit voilà, c'est un commun de l'humanité, ce qui veut absolument rien dire, et on ne sait pas si c'est la communauté internationale, mais c'est qui au sein de la communauté internationale qui s'en occupe, si c'est le gouvernement brésilien, si ce sont les autochtones dont c'est le jardin, enfin voilà, c'est à chaque fois des modes de gouvernance extraordinairement différents et des conflits entre ces échelles et ces communautés. Dans le cas du commun négatif, cette illusion de naturalité entre le collectif et le commun n'existe pas, puisque personne n'a de mandat pour dire il faut faire des méga-bassines ou il ne faut pas faire des méga-bassines, d'une certaine manière. Voilà, c'est imposé, mais il n'y a pas de mandat. Et même quand on conteste, et c'est ça une partie du problème, c'est qu'il n'y a pas de mandat pour contester. Ou quand on conteste la 5G, il n'y a pas de mandat pour contester la 5G. Pour autant, ça peut être quand même légitime justement de le faire, en arguant du fait que ce sont des exemples typiquement pour les méga-bassines, de maladaptation. Et donc, en fait, cette question de l'eau va concerner finalement tout le monde à l'échelle finalement d'un territoire, mais plus largement, hein, en fait, l'échelle même d'un pays ou autre, et à produire, par exemple, de l'expertise pour le faire valoir devant les tribunaux, contester des rapports qui ont été publiés, et de ce fait, finalement, d'élargir le public qui va considérer aussi que c'est un commun négatif qui va éventuellement supporter les actions visant à lui donner une autre trajectoire qui peut évidemment passer par un démantèlement, un arrêt pur et simple, etc. etc. Mais il y a toujours ce... Ça recompose le territoire, en fait. Parce que l'idée, c'est pas du tout que les personnes qui sont en but à un problème, que ce soit une méga-bassine, que ce soit un sol pollué ou que ce soit autre chose, se débrouillent. Là, pour le coup, je suis pas trop... un peu à l'inverse d'Anat Singh, hein, c'est pas apprendre à vivre dans les ruines du capitalisme, ce qui ressemble un peu à une certaine acception de la résilience. Je vais pas ouvrir une question sur la résilience là, parce que c'est, en fait c'est assez complexe, mais un peu se débrouiller finalement dans l'épreuve, comme ça a été fait à Fukushima, où on a des gens qui voilà, on les met en situation d'empowerment, mais pour qu'ils apprennent à se débrouiller, à vivre dans un milieu pollué, ce qui est aussi une manière finalement de ne pas s'en occuper. Là, l'idée, c'est pas du tout de les abandonner, mais c'est au contraire de dire pour faire commun autour d'un commun négatif, il faut impliquer d'autres personnes qui sont responsables de l'existence de ce commun négatif, et en fait des publics plus larges. Et c'est ça, en fait, le fait de faire commun, c'est un processus en fait de commoning, c'est un processus de commonisation d'une réalité qui sinon va retomber sur les épaules des populations alentour ou des plus faibles, pour au contraire poser la question d'une vraie prise en charge politique et collective de ces réalités qui par ailleurs se multiplient. Donc forcément, ça veut dire recomposer des rapports de force, recomposer des territoires, recomposer des équilibres, mais voilà, c'est absolument nécessaire.
comme méthode que tu proposes pour un démantèlement, tu proposes l'enquête. Qu'est-ce que tu entends par là ?
Alors effectivement, pour un démantèlement, un arrêt, une fermeture, après il y a des nuances. Hein. Je pense que démantèlement, c'est plus quand on rencontre des obstacles, et puis fermeture, c'est quand il y a déjà un collectif qui a acté le fait qu'il fallait renoncer à quelque chose. L'idée, en fait, c'est effectivement de dire qu'il y a un enjeu à mobiliser aussi les personnes qui sont concernées par l'arrêt d'une activité, d'une infrastructure, d'une technologie, que sais-je, de mener l'enquête, d'abord sur le bien fondé ou non d'arrêter quelque chose, déterminer si quelque chose est viable ou non, parce qu'on peut aussi tout à fait déterminer que quelque chose n'est pas viable, et donc on peut dire « ah bah c'est une bonne mesure écologique », mais en fait on peut le faire avec des motivations qui ne sont pas forcément très sympathiques, en ciblant des activités qui en fait pourraient tout à fait être viables dans d'autres conditions économiques et autres. Et puis derrière, en fait, si on veut prendre en considération effectivement une fermeture, moi j'appelle non brutale, ou la moins brutale possible en tout cas, il y a un enjeu effectivement à prendre en compte les attachements des personnes concernées. Même dans le cas des méga-bassines, d'une certaine manière, on pourrait se poser la question de désattacher un certain nombre d'agriculteurs d'un modèle qui leur nuit en fait in fine. Donc c'est à la fois des adversaires dans certains cas, mais en fait c'est des adversaires qui sont eux-mêmes pris en otage par un certain système. Et il faudra arriver justement à comprendre tous ces attachements pour arriver à recomposer un système beaucoup plus viable pour un certain nombre d'acteurs derrière. Donc tout ce qu'on essaye de faire avec mes collègues, nos étudiants, étudiantes, etc., c'est justement de comprendre quels sont les attachements des populations qui sont liées à des activités, des infrastructures ou autres qui n'ont pas d'avenir, pour savoir comment est-ce qu'on y renonce et vers quoi on se projette. Et c'est aussi, en fait, faire ressortir ces attachements. Alors, par attachement, j'entends, en référence notamment aux travaux d'Antoine Aignon, mais ça avait été aussi travaillé par Bruno Latour et Michel Calon, ce à quoi on tient, ce qui nous tient. Ce n'est pas que des attachements affectifs ou autres, hein. Ce sont aussi des dépendances. Ce sont aussi parfois des attachements pesants. Ce qu'on a vu avec la crise des Gilets jaunes, prendre sa voiture 2 heures par jour ou plus pour aller travailler, chercher ses enfants, faire ses courses, etc., c'est pas forcément l'activité la plus agréable. Mais pour autant, c'est quand même un attachement à un système de mobilité donné. Et si cet attachement-là est rendu vulnérable et qu'on peut plus se déplacer et effectuer ses actions, qui sont des actions assez fondamentales, eh ben, la réaction derrière peut évidemment être extrêmement, extrêmement vive. Donc, c'est prendre en compte ces attachements pour que si on se pose la question d'interrompre justement la trajectoire d'une infrastructure, d'une activité ou autre, eh bien, on sache qui va être affecté par cette interruption, par ce démantèlement, ce renoncement, et qu'on puisse justement l'anticiper, qu'on puisse travailler aussi à permettre aux personnes de se réattacher à d'autres modes d'existence qui seraient davantage viables. Et parfois à trouver, par exemple, des paliers d'atterrissage, parce que sur l'exemple de la mobilité, ben, on ne va pas du jour au lendemain atterrir sur un modèle de mobilité complètement viable. Donc il faut arriver vers des modèles qui soient moins mauvais avant d'arriver à des modèles qu'on pourrait complètement différents, mais qui seraient des modèles un peu concrets. Donc c'est tout ce travail-là. Si on ne travaille pas sur les attachements, ce qu'on doit faire avec les populations concernées dans l'enquête, parce que les populations concernées sont expertes de leurs propres attachements, on ne peut pas de l'extérieur décréter comment des personnes sont attachées à une certaine réalité, sans aller sur le terrain, sans aller comprendre ce qui est en jeu, eh bien on ne peut que procéder à des fermetures, démantèlements, désattachements injustes, parce qu'on n'a pas des critères à notre disposition pour trancher d'une manière correcte, savoir là où ça va faire mal, là où ça va frotter, et derrière, évidemment, pour pouvoir se reprojeter, donc se réattacher à des modes de subsistance qui soient beaucoup plus viables cette fois-ci, donc de transformer évidemment l'existant et le business as usual.
Ces enquêtes avec les populations concernées, c'est des choses que tu fais avec tes étudiants, je ne l'ai pas dit au départ, mais tu es aussi directeur du master Stratégie et design pour l'Anthropocène. Normalement, c'est en anglais, mais voilà.
C'est très bien en français.
À l'ESC Clermont. Et donc, voilà, ces étudiants, ces étudiantes participent à des enquêtes. J'avais vu un article, par exemple, sur le ski. Est-ce que tu peux expliquer concrètement comment ça se passe sur le terrain ? Qu'est-ce que vous faites ?
Oui, bien sûr. Alors, en fait, ça dépend évidemment des types de chantiers sur lesquels on travaille. Mais on essaye, en fait, on propose un cadre avec la redirection écologique qui permet à des acteurs institutionnels ou autres, ça peut être des collectivités, beaucoup des collectivités, quelques entreprises, des associations, des ONG, des collectifs divers et variés, qui ont en fait, qui sont confrontés à une problématique liée à une fermeture, un arrêt d'activité, un possible démantèlement. En fait, on leur propose de se saisir du cadre à la fois conceptuel et opérationnel qu'on propose pour travailler avec, avec ces acteurs sur ces chantiers-là. Et donc, on a des étudiants qui vont participer à ça. Donc, par exemple, un exemple dont on a parlé ce matin, c'était avec la ville de Grenoble, qui s'est posée il y a 3 ans. Un exemple sur lequel a travaillé notamment mon collègue Diego Landivar avec 4 de nos étudiantes et étudiants. La ville de Grenoble s'est posée la question du devenir des piscines municipales. Alors, pourquoi les piscines municipales ? Tout le monde aime les piscines municipales. Là, on n'est pas sur une centrale à charbon, une centrale nucléaire ou autre chose. Mais en fait, malgré tout, c'est un service public extrêmement énergivore, qui atteint sa demi-vie au bout de 40-50 ans, donc qui commence à devenir vétuste tous les 40-50 ans, et après ça veut dire qu'on est dans un cycle de les déconstruire, de les reconstruire, et d'en reconstruire, alors, certes des piscines plus efficaces, mais qui arrivent équipées avec tellement plus de services qu'en fait il y a une dépense énergétique qui augmente, et le simple maintien en fait aujourd'hui de nos infrastructures existantes va déjà être compliqué à l'avenir. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reste dans ce cycle-là, destruction, recréation, ou alors on se pose la question du devenir de ces infrastructures ? Mais derrière, il y a évidemment énormément d'attachements. Tout le monde aime, a priori, les piscines municipales, alors, sauf si on a sa propre piscine, qu'on a grandi avec, et voilà. Mais tout le monde aime les piscines municipales. Et puis, il y a une obligation légale, d'ailleurs, des mairies, hein, d'apprendre aux enfants à nager. Et donc, on a fait tout un travail. Collègue Diego et les étudiants et étudiantes ont fait tout un travail autour de ce qu'ils ont appelé un protocole de renoncement, que j'appelle moi dans le livre protocole de désattachement, pour voir comment les gens étaient attachés à cette infrastructure, à ce service public, pouvoir pondérer justement entre des attachements plus ou moins défendables. Par exemple, il y a un fort attachement au fait d'apprendre à nager aux enfants des catégories populaires. C'est hyper important. C'est une question de sécurité aussi, de justice sociale, etc. Par contre, avoir des piscines qui font 5 mètres de profondeur pour accueillir partout à Grenoble des clubs de plongée sous-marine, bah pas forcément. Est-ce qu'à Grenoble, il faut partout des clubs de plongée sous-marine ? Donc ça permet de comprendre un petit peu, de pondérer ces différents attachements pour voir après et proposer aux populations elles-mêmes, eh bien, qu'est-ce qu'on peut proposer comme trajectoire si par exemple on arrête de maintenir certaines infrastructures, qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on assure les services qu'elles rendaient sans l'infrastructure sous-jacente, par exemple en sécurisant des plans d'eau, en faisant autre chose. Alors, on perd la température, mais on garde la possibilité de se baigner, ou alors des activités comme l'aquagym, hein, on propose aux gens de faire des randonnées, du tai-chi, pas besoin d'une infrastructure massive sous-jacente. Voilà, c'est ce travail-là très très concret qui peut être fait. Ça peut être des travaux aussi dans des contextes un petit peu plus où ça frotte davantage. Là, on était dans une mairie écolo, etc., mais qui ne savait pas du tout comment répondre à cette question. Donc, on est intervenu. Parfois, il y a des urgences. 2 ans plus tard, il y a eu le déclenchement de la guerre russe en Ukraine. Énormément de piscines municipales ont fermé leurs portes pour des bonnes et des mauvaises raisons parfois. Mais donc, on s'est retrouvé avec des acteurs qui avaient dû fermer, par exemple, leur centre nautique ou autre. Et là, on les a accompagnés aussi. On dit, bon, OK, vous avez fermé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, eux-mêmes se posaient cette question, en fait. Qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant ? Comment est-ce qu'on redémarre pour faire autrement ? Parce que cette question, finalement, de la disponibilité de l'énergie pas chère, c'est sans doute une question pour les prochaines années. Et la crise à laquelle on fait face, ce n'est pas une crise ponctuelle, c'est une crise très grande. Mais voilà, comme là, cette année, on travaille avec un territoire dans le Var, pays de Fayence, qui a annoncé en janvier dernier mettre fin à la construction de toute construction en fait pour 5 ans pour garantir la ressource en eau pour les personnes déjà présentes sur le territoire. Et ça, par exemple, si demain c'est un territoire pilote où on arrête de construire à l'avenir, on est dans une construction, on va dire, stationnaire, bah, ça va donner aussi beaucoup d'idées à d'autres territoires en France, avoir des territoires qui fonctionnent comme ça, et ça veut dire un territoire qui repense son économie, qui repense ses activités en profondeur. Donc voilà, on essaie vraiment d'accompagner ces dynamiques et derrière de passer à l'échelle. Et cet exemple, c'est un exemple intéressant aussi, parce que quand on sait ce que ça représente la construction neuve dans le sud-est de la France, en fait, c'est quelque chose de tout à fait ambitieux. Donc voilà, on intervient vraiment sur des sujets très très concrets, mais qui sont aussi un peu, voilà, c'est aussi la fabrique des territoires, la fabrique de nos modes de vie. Ça peut sembler comme ça assez technique, mais en fait derrière ces enjeux très techniques, il y a beaucoup de politique et une capacité finalement à vraiment changer des manières de faire.
Alors, tu le répètes beaucoup dans le livre que cette fermeture, ces fermetures doivent être démocratiques, elles doivent être anticipées. Est-ce que pour ça, il faut forcément passer par des institutions? Est-ce qu'il faut forcément passer par l'État? Tu as beaucoup parlé de services publics, là.
Alors, c'est une bonne question. Alors, oui et non, forcément. La difficulté, c'est... En fait, l'État, ce n'est pas forcément monolithique. L'État, c'est aussi bien les armées, la police, que les hôpitaux, le soin des personnes. Donc il y a des facettes évidemment tout à fait différentes. Donc non, on n'est pas obligé de passer par l'État. Et d'ailleurs, dans une acception stricte, les exemples que j'ai pris n'étaient pas des exemples liés à l'État, c'est des exemples liés aux collectivités. Alors on peut être évidemment dans une perspective de rupture avec l'État, et parfois il y a des positions militantes qui sont sur ces perspectives-là. C'est vrai que moi, dans la position qui est la mienne, j'hérite un peu de l'existence de l'État pour retravailler à partir